Chapitre 3. Raide dans son fauteuil face à l'écran qui projetait dans la pièce une lueur vacillante, Hansel restait de marbre face aux mensonges et aux affabulations de Dimanche Magazine. Claire, incapable d'en supporter davantage, se leva d'un bond et entama une ronde furieuse devant la télévision qu'elle invectivait.
« N'importe quoi ! Vous n'êtes que des menteurs, bande de salopards !»
Le reportage diffusé ce soir-là ne ressemblait en rien aux sujets habituels d'une émission mesurée qui avait toujours évité jusque-là les attaques au vitriol et les thèmes racoleurs, au point d'être parfois taxé d'élitisme. Mais alors, comment expliquer une exploitation aussi populiste et alarmiste de l'affaire ? L'unique but de ce numéro spécial, baptisé « Le beau monstre », était de dépeindre Jane sous les traits d'une envoyée du diable et d'une traîtresse aux instincts meurtriers. Au moment de la pause publicitaire, le présentateur enjoignit aux téléspectateurs de rester à l'écoute, annonçant le scoop promis à grand renfort de spots depuis plusieurs jours. Claire se posa sur un tabouret et ferma les yeux, les bras serrés autour de son torse, dans l'espoir de chasser le froid qui l'avait envahi.
À quoi rime tout ça, Hansel ? Ce n'est pas du journalisme !
Non, approuva son mari.
C'est de la propagande et de la diffamation pure. Ces gens sont l'allié des instances gouvernementales et des industries technologiques. Ils ont décidé d'avoir sa peau avant qu'elle ait pu révéler sa part de vérité.
Tu crois vraiment que le grand public la soutiendra après un truc pareil ?
J'en suis convaincu. Ces idiots en font trop, à vouloir la transformer en un mélange féminin de Dracula et de Charles Manson.
Les imbéciles prendront ça pour argent comptant,
s'inquiéta Claire.
Les imbéciles et les plus crédules. Mais ce ne sera pas le cas de tout le monde, peut-être même pas de la majorité.
En tout cas, je ne veux pas voir la suite.
Moi non plus, mais nous n'avons pas le choix. Par solidarité avec Jane. En détruisant sa vie, ils détruisent la nôtre. Je ne sais pas ce qui nous restera au lendemain d'une émission pareille.
La pause publicitaire terminée, Dimanche Magazine reprit son cours en montrant une photo de Jane, prise à la fin de sa période de formation à Quantico. C'est à cette occasion qu'elle a fait la connaissance de Nick, affecté à l'unité de sport de combat des Marines sur la même base. Des photos de leur mariage apparurent à l'écran, Jane en robe de mariée toute simple, Nick en uniforme. Ils formaient un couple magnifique. Claire se sentit submergée par l'émotion à la vue de son fils disparu et de sa belle-fille à une époque où ils nageaient en plein bonheur. Défilèrent ensuite des images de Nick recevant la croix de la Navy sous le regard empreint de fierté et d'amour de Jane. Claire quitta son tabouret et se percha sur le bras du fauteuil d'Ansel, en lui passant un bras autour des épaules.
« Je sais », réagit-il en lui serrant affectueusement le genou.
À la télévision, le présentateur expliquait les circonstances du suicide de Nick. Le drame était survenu dans leur maison d'Alexandria, en Virginie, pendant qu'ils préparaient le dîner en partageant un verre de vin. Leur fils, Travis, dormait ce soir-là chez un petit copain du voisinage, âgé comme lui de 5 ans, histoire que ses parents puissent passer la soirée en amoureux. Nick s'était isolé dans la salle de bain, et puis il n'était pas revenu. Jane l'avait retrouvé tout habillé dans la baignoire. Il s'était tranché la carotide à l'aide de son poignard de combat, en laissant derrière lui un petit mot dont seule la première phrase était tracée d'une écriture normale, contrairement aux suivantes. « Quelque chose ne tourne pas rond chez moi. J'ai besoin. Un besoin terrible. J'ai terriblement besoin de mourir. » Plus de 4 mois s'étaient écoulés depuis que Jane leur avait passé ce coup de fil terrible, mais les larmes de Claire n'avaient rien perdu de leur amertume.
« Voilà ce qui est arrivé à Jane Hawke !» commenta le présentateur sur un ton solennel. « La police d'Alexandria en a confirmé tous les détails.
Au cours des journées qui ont suivi la mort de son mari, de l'avis de ses amis, Jane s'est focalisée sur ce qu'elle considérait comme une augmentation anormale du nombre de suicides à travers le pays. Elle avait découvert que plusieurs milliers d'individus épanouis comme son mari, et épargnés par toute forme de dépression, s'étaient donné la mort sans raison apparente. En congé sans solde du FBI, folle de chagrin au point que ses amis doutaient de sa santé mentale, elle a entrepris des recherches sur cette vague de suicides qui tournait chez elle à l'obsession. La teneur de l'émission changeait brusquement, comme si les auteurs du reportage entendaient considérer de façon plus favorable les révélations terribles de la première partie. L'un des témoins interrogés, un universitaire spécialiste de la prévention des suicides, affirmait que ceux-ci avaient toujours connu des taux fluctuants et que l'augmentation constatée au cours des 2 années précédentes n'avait rien d'anormal. Quant à la proportion d'individus, apparemment bien dans leur peau, qui se donnaient la mort, elle restait dans la norme. « Il se trompe forcément !» commenta Claire. L'intervenante suivante était une experte en psychologie criminelle. Les cheveux tirés en chignon et ses yeux de chouette grossis par les verres de ses lunettes rondes à monture noire, elle portait une tenue austère, en parfaite adéquation avec son allure austère. Elle rappela en détail l'enfance difficile de la jeune femme. Jane, pianiste virtuose à l'âge de 4 ans, était la fille du célèbre concertiste Martin Duroc. À en croire certains, ce dernier était un père distant et autoritaire, avec qui Jane avait rompu les ponts. Quant à sa mère, elle-même pianiste de renom, elle s'était suicidée. Jane, alors âgée de 9 ans, avait découvert son corps sans vie baignant dans son sang, au fond de la baignoire. Malgré les objections de sa fille, Duroc s'était remarié 1 an plus tard. À son entrée dans l'âge adulte, Jane avait refusé la bourse d'études qu'on lui proposait à la prestigieuse école de musique Oberlin et obtenu un diplôme universitaire avant de se destiner à une carrière dans la police.
Les 6 années qu'elle a passées au FBI posent question, poursuivit la psychologue dans un murmure, comme si elle s'apprêtait à révéler un secret. Dès son arrivée au bureau, Jane s'est vue confier des enquêtes sous la direction des unités 3 et 4 du département d'analyse du comportement en charge des tueurs en série et des auteurs de massacres. Elle a participé à un total de 10 enquêtes, dont 8 ont été résolues. Cette jeune femme, qui avait de longue date une dent contre la jante masculine, s'est brusquement retrouvée confrontée à des sociopathes de sexe masculin, ce qui l'a obligée à penser comme eux. Il est clair que cette expérience aura laissé chez elle de profonds traumatismes.
Claire frissonna, devinant la suite, et quitta le bras du fauteuil d'Ansel.
C'est quoi cette histoire ?
Sur l'écran venait de s'afficher le nom de J.J. Crutchfield. Le narrateur du reportage rappela le passé sordide de cet assassin de femmes qui conservait les yeux de ses victimes dans des pots de confiture. Il avait été blessé par Jane lors de sa capture. Le commentateur poursuivit son récit, cette fois sur les images de la ferme isolée dans laquelle 2 psychopathes avaient violé et tué 22 jeunes filles. Le collègue avec lequel enquêtait Jane avait été abattu par les tueurs, obligeant la jeune femme à jouer seule à cache-cache avec ses adversaires en pleine nuit. Elle avait réussi à tuer les 2 hommes, venant à bout du second dans la cave où il tuait ses victimes, avant de les enterrer dans une ancienne porcherie. On découvrait la ferme cette nuit-là, après l'arrivée de la police. On voyait Jane discuter avec des agents en uniforme à la lueur des gyrophares. Les cheveux en bataille, ses traits fins sculptés par la lumière ambiante, elle avait tout d'une déesse vengeresse. L'image se figea sur l'écran. Nul n'aurait songé à nier la beauté de Jane. Mais le gros plan suggérait une dureté inquiétante, laissant planer autour d'elle une ombre de cruauté, voire de folie. L'auteur du reportage réapparut, marchant face à la caméra dans une rue d'Alexandria, la ville où Nick et Jane avaient longtemps résidé.
« La frontière n'est-elle pas ténue entre l'héroïsme et le crime ?»« N'importe quoi !»
gronda Claire. Ce n'est pas une frontière qui les sépare, mais un océan.
Hansel, le visage fermé, resta sans réaction.
N'est-il pas possible, pour un être foncièrement bon, mutilé par une enfance traumatique et plongé trop longtemps dans l'univers glauque des tueurs en série, de perdre ses repères?
Le présentateur s'arrêta devant les locaux de la police d'Alexandria. À la lumière des événements récents qui ont propulsé Jane Hawke à la une des médias, le service de police qui avait confirmé le suicide de son mari a tenu à rouvrir l'enquête. Le corps de Nicolas Hawke a été exhumé afin d'être autopsié. Les examens toxicologiques pratiqués à cette occasion montrent que le défunt avait avalé un puissant sédatif. En outre, la nature de sa blessure au cou permet de confirmer que celle-ci n'a pas pu être infligée par l'intéressé lui-même.
Claire sentit son sang se glacer dans ses veines. Comment pouvait-on proférer pareil mensonge aussi impunément?
Nick avait été incinéré, ses cendres étaient enterrées dans le cimetière national d'Arlington. Il n'y avait donc pas de corps à exhumer.